Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir donc Olivier Bellamy, qui est un des animateurs vedettes de Radio Classique, hein, que nous écoutons quotidiennement à 18h dans son émission. Comment ça s'appelle déjà ? Passion Classique. Enfin, ils connaissent tous quand même. Hein. C'est pas mal. Vous êtes donc des habitués. Et en plus donc de ses activités, disons radiophoniques, il est un journaliste reconnu. Il a écrit beaucoup de commentaires sur certains blogs, et également il a publié un certain nombre de livres, dont une biographie reconnue de Martha Argerich, et ces deux ouvrages qui sont présentés ce jour, et qui consacraient un à Schubert et l'autre à Prokofiev. Donc la première question que je voulais poser à Olivier Bellamy, qui m'a déjà plusieurs fois interrogé moi-même, quelle est la motivation qui vous a poussé à écrire des livres, finalement, pour l'éternité ?
Oh ! Là, ça commence très fort. Ben, l'éternité, le mot est bienvenu pour la musique, je trouve, parce que s'il y a quelque chose où on a l'impression d'être à la fois dans l'éternel et dans le présent, c'est bien quand on écoute une œuvre musicale. Donc il y a cette dimension-là. Et puis, pourquoi écrire ? Je pense que sans la biographie sur Martha Argerich, je pense que peut-être que je serais passé à côté de cela, parce que j'ai pas... évidemment, comme tout le monde. Il y a une plaisanterie qui dit qu'en France, les gens originaux sont ceux qui n'ont pas encore écrit de livre. Parce que tout le monde a soit un roman dans un tiroir ou le projet de pour ses vieux jours, entre le jardinage et les promenades, de raconter ses souvenirs, ce qui est très, très louable, ce qui fait qu'on est un pays avec une civilisation fondée sur l'écrit. Alors, les musiciens peuvent parfois s'en plaindre que la littérature est si importante, mais c'est comme ça. Je crois que c'est au moment, c'est la rencontre avec Martha Argerich, comme elle a... écrire sur elle, c'était une forme d'exploit, je le dis sans forfanterie, hein, sans orgueil, mais c'est vrai qu'elle donne pratiquement pas d'interview, et j'ai eu cette chance d'avoir un contact avec elle. Alors, la chose n'était pas facile, mais je me suis dit, soit je profite égoïstement de ce rapport que j'ai avec elle, et j'en jouis, parce que être, on peut pas dire ami, mais proche alternativement, enfin par intermittence, très proche par intermittence, et puis à des années-lumière à d'autres moments, de quelqu'un d'un tel génie, c'est quand même une chance. Et j'ai décidé d'en faire quelque chose, et j'ai mis 8 ans pour le faire, c'est-à-dire pour... ça n'a pas été facile, puisque c'est un personnage assez extravagant, en même temps un peu timide, un peu difficile à manier. Et donc voilà. Et après, une fois que ça a été fait, je ne peux plus m'arrêter. Donc,
voilà. Et pourquoi donc, ce qui est intéressant aussi dans ces deux livres, c'est que vous avez choisi deux formes totalement différente. Pour Prokofiev, c'est un roman. Et pour Un hiver avec Schubert, c'est un peu un livre de recueil de pensées, un peu dans l'esprit de ce qui a été initié il y a un an ou deux maintenant, Un été avec Montaigne ou avec Proust, qui sont effectivement des mises en page d'émissions de radio qui sont autour de certains chapitres, de certaines formes, de certains moments de l'œuvre de l'un ou l'autre. Alors, pourquoi cette forme pour Schubert et pourquoi le roman pour Prokofiev ?
Alors, c'est une question fondamentale, mais j'ai toujours, ça c'est, dès que je fais quelque chose, j'essaie toujours de faire la chose à côté, d'échapper à la forme ou à ce qu'il peut y avoir d'obligatoire. Je m'explique, j'ai jamais eu l'impression d'être un journaliste au sens traditionnel du terme. J'ai toujours senti un peu à part. J'ai beaucoup de respect pour mes confrères et beaucoup d'admiration, mais je me suis toujours senti, peut-être parce que ne sortant pas d'une école de journalisme, n'ayant pas été cadré, mis dans un moule, je me suis développé un peu comme ça, un peu, on dit en autodidacte, mais c'est un petit peu ça, enfin en forgeant, je suis devenu forgeron en forgeant. La radio, c'est pareil. C'était quelque chose pour lequel je n'étais pas formé. Donc, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Et l'écriture aussi. Mais sachant que j'essaie toujours... Par exemple, la biographie de Martha Argerich, beaucoup ont dit que c'était un roman plus qu'une biographie. Et ça me fait plaisir. Parce que j'aime bien les choses un peu déguisées, j'aime pas les choses trop évidentes comme ça. Et je pense qu'en plus pour Martha, qui est un personnage aussi insaisissable, c'était la bonne formule de pas faire quelque chose de cadré, de quelque chose qui échappe un peu. Et à chaque fois se pose le problème de la forme. Et pour Prokofiev, en fait, c'est quand j'ai vu en fait au départ c'était une pièce de théâtre. J'avais vu une pièce de théâtre sur les rapports entre Richard Strauss et Stefan Zweig, et quand je suis sorti, il y a des choses, on peut pas, c'est pas une pièce, si c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est ce qui m'a donné envie. Vous savez, c'est étrange ça, quelquefois les chefs-d'œuvre vous écrasent parce que vous dites que tout est fait, on ne pourra pas dire mieux. Et quelquefois, une œuvre, pas maladroite, mais en tout cas inaboutie sur certains plans, je trouve, parce que la musique, on n'entre pas vraiment dans la musique, dans la chose musicale. C'est une pièce entre une conversation brillante entre deux grands personnages, mais on n'entre pas vraiment, à mon sens, au fond des choses. Ce qui fait que ça m'a donné envie de faire, et je me suis posé la question, tiens, qui, si je devais faire ça, qui ce serait ? Et le personnage de Prokofiev est apparu tout de suite, parce que d'abord c'est un caractère, c'est un personnage très, très particulier, avec un caractère fort, un personnage pas sympathique de prime abord, donc intéressant pour creuser. Et puis en plus, bon, les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais il y a quelque chose de très tragique dans la vie de Prokofiev pour sa famille et pour lui. Et pour Schubert, eh ben, tout simplement, c'est ce que j'ai dit, hein, je n'ai pas cherché à dissimuler, j'ai eu envie de faire quelque chose, pas une biographie, encore une fois, parce que de toute façon, il y en a déjà, et de très, très très bien, mais faire quelque chose de musical autour de Schubert, de petits textes, un peu comme Antoine Compagnon a fait sur Montaigne. C'est drôle, à Bordeaux, pour revenir aux sources, est-ce Montaigne. Mais je pensais que, d'abord, ça se prêtait bien pour Schubert, parce que comme c'est un maître du lead, de la petite forme, c'est bien de faire des petits textes. Et je voulais que l'écriture soit souple, fluide, rappelle un peu l'univers de Schubert, et que ça se prêtait bien. Plutôt que de faire quelque chose de musicologique, en plus, j'en suis pas capable. Hein. Je pensais que c'était intéressant. C'est presque la forme qui commande, ou la forme qui rejoint l'énergie. Et puis, il y a une étincelle, et puis après, je ne sais pas si j'ai bien...
Très bien, c'est parfait. Vous l'avez dit, là, Prokofiev n'était pas très sympathique. Il y a quelques semaines, on a eu une réunion ici aussi sur un livre qui vient de sortir sur Wagner antisémite, où on voit que Wagner n'était pas très sympathique non plus. Est-ce que c'est un peu la marque d'un génie que de ne pas être très sympathique ?
Non, parce que Schubert était très sympathique, je pense.
Il a quand même fait une colère.
Oui, une dans sa vie. C'est pas bon. Mais ah, je pense que... de la même manière qu'à un moment donné, on disait qu'un grand génie vivait toujours dans la misère, avait toujours une vie malheureuse. C'est une idée un peu romantique. De la même manière, il y a des gens charmants et géniaux. Je suis sûr que Montaigne devait être de commerce très agréable. Et ce n'est pas un mauvais écrivain. Loin s'en faut, Bach devait être assez facile à fréquenter. Je pense que c'est à part parce que ce qui sort des compositeurs... Alors, sauf certains compositeurs, certains écrivains... Si on pense à Proust, par exemple, c'est évident que l'œuvre et la personne sont étroitement liées puisqu'il fait don de sa personne à la littérature. C'est en creusant dans les tréfonds et les replis les plus secrets de son être et de son âme qu'il arrive à trouver quelque chose d'universel, ce qui est prodigieux. Mais certains, ça peut être très, très différent, ça peut être par compensation aussi. C'est-à-dire que, et je pense que pour Wagner, c'est ça, il était ce qu'il était, mais en tout cas, dans sa musique, il était sublime et généreux. Donc, on ne peut pas forcément... alors, je sais qu'il y en a certains... J'avais entendu le pianiste Sokolov dire « Ah, moi, je veux bien jouer Liszt parce qu'il était bon et je ne jouerai jamais Wagner parce qu'il était méchant. » Je trouve ça un peu... enfantin, on joue ce qui est génial et ce qui vous parle. Et puis le reste, ça appartient à la biographie.
Est-ce qu'on peut comprendre vraiment pourquoi Prokofiev est retourné en Russie ?
Alors voilà, c'est la question centrale. Je pense que tout livre fonctionne un peu sur une question, sur une énigme. En fait, si on écrit un livre, c'est pas forcément pour apporter des réponses. En tout cas, c'est pour poser l'énigme. Déjà, poser la question, c'est déjà se pencher sur un mystère, donc ouvrir son champ de connaissances. Et je pense que la forme romanesque permet d'une autre façon que la forme biographique, que l'enquête policière. Après tout, il y a des rapports de police qui, pourtant strictement établis par des gens honnêtes, perspicaces et professionnels, qui ne nous montrent pas du tout la vraie personnalité. Enfin, je suis sûr que du temps des services... des renseignements généraux, puisque ça n'existe plus. Mais si d'aventure on était tombé sur sa propre fiche, on aurait cru lire celle d'un étranger. Enfin, parce que un individu ne se résume pas à des actes, des entrées et sorties, et même des écrits. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc la forme romanesque permet, par intuition, de percer certaines vérités complexes, je crois. Alors que s'il nous l'avait dit, d'abord, il n'était pas obligé de nous dire la vérité. En plus, il peut se tromper. Et puis, ça me fait penser aussi, quand je... Par exemple, Nelson Frère, quand il dit qu'il déteste les interviews, parce qu'il dit, je ne comprends pas, les journalistes me posent des questions que je ne me pose pas moi. Je ne sais pas quoi répondre. Et effectivement, je crois que Prokofiev ne se posait pas la question, est-ce que je dois aller ? Pourquoi j'y vais ? Il y est allé, c'est tout. Il y est allé, probablement, alors après, on peut, nous, formuler des hypothèses. Mais quand on formule des hypothèses, c'est forcément biaisé. Mais bon, faisons-le, puisqu'on est là. Moi, je pense que il recherche d'abord, pour un Russe, je crois que entendre sa langue, tous les Russes l'ont dit, le sol russe, le ciel russe, même le froid russe, c'est des choses qui sont très, très, très importantes. Et en plus, pour un artiste, c'est quand même un pays où la musique est fondamentale. Je veux dire, même sous une dictature, et l'une des pires que le monde ait connue, il y a quand même des génies extraordinaires. Quoi. On tombe à la renverse quand on voit les compositeurs. Et il n'est pas interdit de penser. Je me ferai, loin de moi d'être le chantre de l'Union soviétique, au contraire, quelle horreur. Mais on peut dire que dans les arts, la voie qu'ils ont trouvée était peut-être plus féconde que celle du sérialisme ou de la musique dodécaphonique qui s'est révélée être une impasse en Occident. Donc les choses sont complexes. En tout cas, je crois que la musique, comme la littérature, comme la peinture, comme les arts, sont de l'ordre du sacré en Russie, et que Prokofiev, il avait fait le tour de l'argent américain et de la frivolité française. Donc, tout naturellement, il est retourné en Russie, point barre. Voilà.
Point barre. La vie qu'il a menée en Russie n'était pas aussi évidente et facile. Hein. Il y a un personnage qui est intéressant dans votre roman, qui était Chostakovitch. Mm. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliciter les rapports entre ces deux génies de la musique russe qui ont quand même eu des carrières assez comparables, enfin, au moins dans les domaines symphoniques, dans le domaine de la musique de chambre, même de l'opéra. Ils étaient très dissemblables.
Oui. D'abord, Prokofiev, c'était l'aîné. Ensuite, Prokofiev est international et cosmopolite. Il est parti en 1917. Donc, évidemment qu'il était russe, comme dirait Tchaïkovski, russe, 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 jusqu'à la moelle des os, mais il a connu le monde. Chostakovitch n'a pas connu le monde. Chostakovitch était un compositeur soviétique. Évidemment, il n'est pas que ça. En disant soviétique, il faut prendre la première partie des arts soviétiques, qui était absolument prodigieuse. Hein, avant que Zhdanov, que Staline mette le holà, la première partie, enfin les 15, 20, jusqu'à la première purge de 1936, on peut dire que l'art soviétique faisait l'admiration du monde entier. Même il y avait une mode de l'art soviétique, comme il pourrait y avoir une mode des chapeaux parisiens à New York sur la 5e avenue. Enfin, il y avait quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Prokofiev était sans doute agacé. Alors, les tempéraments sont radicalement différents, parce que Chostakovitch, je pense qu'il c'était un romantique. On peut dire que c'était on a dit que c'était le Mahler russe, mais on peut dire que c'est le Beethoven russe. Enfin, il y a quelque chose comme ça, une grande ampleur symphonique. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un romantique, clairement. Tandis que Prokofiev est un classique. Prokofiev est le fils de Mozart, dans le sens où ce qu'il pense, lui, a moins d'intérêt que que ses sensations, exactement comme Mozart, il peut se promener et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sent, se transforme instantanément en musique sans passer par un filtre, on va dire, humaniste ou mélancolique ou littéraire ou poétique. C'est direct. L'air qu'il respire se transforme en musique. Je pense que chez Mozart, comme chez Prokofiev, donc quelque chose plus, on peut dire, un classique où sa personnalité, ses affects ne sont pas mis au premier rang, tandis que chez Mahler ou Beethoven aussi d'une certaine manière, et tout le romantisme, même si Beethoven est encore un peu marqué par le classicisme. Enfin, Schumann, Brahms, et même si la forme est importante aussi pour les romantiques. Mais en tout cas, c'est cette différence-là qui est frappante. Donc, très sensible, Shostakovich avait peur. Il était terrifié par d'être emprisonné, en plus, il a beaucoup souffert, comme tous les autres musiciens. Prokofiev n'a absolument pas peur. Il se comporte, il a l'impression de jouir d'un régime d'exception. Et quand il arrive, il n'a pas peur. Et curieusement, il n'est pas inquiété. Comme disait je ne sais plus qui, nous ne sommes pas... Je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais qui dit qu'en fait, si on se met à genoux devant une autorité, ben forcément, on est dominé par elle. Si on ne courbe pas l'échine, de toute façon, le résultat, comme le résultat sera le même, quoi qu'on fasse, autant rester digne. Donc pour Prokofiev, il n'y a que sur la fin, je crois, où finalement la machine totalitaire est tellement forte qu'elle a raison de tous, même des plus forts. Mais voilà, pour la différence entre les deux, telle que je la vois, ce serait ça. Alors, même dans les œuvres, ce qui est drôle, c'est que Shostakovich avait besoin de croire en ce qu'il faisait. Toutes les œuvres de commande de Shostakovich sont très très mauvaises. C'est des œuvres, même sa musique de film est pas terrible parce que il savait très bien que c'était ce qui lui permettait de vivre et il savait très bien que sa musique de film plaisait à Staline. En revanche, Prokofiev n'a pas ses états d'âme. Qu'on lui propose d'écrire une musique sur l'arbre qui est devant chez lui ou sur le régime soviétique, toutes les ficelles de son génie lui arrivent automatiquement. Il n'a pas d'état d'âme. C'est en cela qu'il est aussi un classique, puisque Mozart pouvait écrire des chefs-d'œuvre sur commande tout en étant très personnel.
Et le rapport de Prokofiev avec sa première femme et son abandon qu'il a fait d'elle, qu'il a mené dans les camps, c'est quand même un peu une lâcheté, non, par rapport à une relation quand même humaine profonde.
Alors, je peux me faire l'avocat de Prokofiev ?
Oui, bien sûr. Parce que... Je pense que sa femme était une peste, sans doute.
Non, pas du tout. Non. Je ne mets pas prêt. Je pense que c'était deux caractères forts. Je pense qu'on ne peut pas vivre à côté de Prokofiev sans être un caractère fort. Donc, le personnage de Madame Prokofiev, Lina, le personnage sur le plan romanesque, est tout aussi extraordinaire. Ce qu'on peut voir, c'est que même si elle est allée dans les camps, elle a survécu. Donc, le destin, quelque part, l'a servi. Ça a été une victime pendant un certain temps, mais elle a vécu beaucoup plus que lui. Et elle a réussi. Alors, quand elle est allée dans les camps, ils n'étaient plus ensemble. Ils s'étaient séparés. Donc, c'était toujours la mère de ses enfants. Mais après, c'est des histoires d'ordre intime. Vous savez, moi, je ne crois pas beaucoup, quand on entend des couples vous parler de la personne qui partage leur vie, ils vous en parlent comme c'était Dieu sur terre, et au moment de se séparer, c'est le diable. Alors, où est la vérité ? On est parfois... On se rend bien compte, en tout cas, qu'aucun avis n'est tout à fait objectif. Hein, et que non seulement les jugements de cour vont en blanc ou noir, mais la vie fait qu'on peut changer très très vite d'opinion sur une personne. Alors, je pense que c'était deux sales gosses. Je pense qu'à un moment donné, Madame Prokofiev savait très bien, parce que si lui était russe, elle était à la fois, elle était considérée comme une étrangère. On lui avait dit, Prokofiev lui avait dit, fais attention. Il y avait une espèce d'hystérisation comme ça de la Russie, et donc elle était sur la sellette et elle ne s'est pas méfiée. Elle est restée, au fond, une Parisienne. Elle se sentait très bien à Paris. Alors que Prokofiev, qui est arrivé, lui, avec un pantalon bleu, une chemise verte, enfin, comme un coq de bruyère, dans ce pays où tout le monde était gris et triste, progressivement, il a essayé de ne pas provoquer. Il est resté aussi tranchant sans avoir peur. Mais tout naturellement, il s'est fondu à Madame Prokofiev. Non, elle était toujours un peu... Donc, vu du côté de Prokofiev, il n'a pas pu la sauver parce que de toute façon, on ne pouvait pas. Et puis ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui qui l'a dénoncé. Alors après... que par naïveté, il se soit laissé avoir et que leurs enfants lui ont reproché de ne pas être intervenu, mais on ne peut pas reprocher... Bon, peut-être que je le défends un petit peu trop, surtout à notre époque où on est très sentimentaux par rapport à... Cette époque-là, je pense, n'était pas... Enfin, c'est toujours facile. Moi, je pense toujours à cette phrase d'Aragon qui dit « Il faut regarder alors avec les yeux d'alors ». C'est toujours facile de juger ou de dire « Ah, pendant l'occupation, qu'est-ce que de juger ?» Ben oui, ben, enfin, je veux dire... On peut aussi estimer que les gens avaient peur, que les gens estimaient qu'ils ne pouvaient rien faire et que tout le monde n'avait pas la possibilité ni physique ni mentale de partir, de tout abandonner, et même si c'est admirable de l'avoir fait, évidemment. Non ?
Oui.
Bon.
L'amusant de la chose, c'est que finalement, Prokofiev est mort le même jour que Staline, ce qui a évidemment beaucoup obscurci le rayonnement de cette mort, enfin l'importance de cette mort. On dit même que quand même, dans votre livre, vous dites qu'il a su la mort de Staline avant de mourir lui-même.
Oui. Ben, je pense que j'ai lu un peu des choses là-dessus. C'est un secret de Polichinelle, mais évoqué, ne serait-ce qu'évoqué, la mort de Staline, penser qu'il est mort probablement sans soin, tellement ceux qui étaient autour de lui étaient terrifiés. Je pense qu'on l'a laissé crever pendant 3 jours avant de se rendre compte, avant d'oser entrer dans sa chambre, de peur de surprendre son œil furibard et que, qu'il vous fasse un signe et que vous vous retrouviez. C'est quand même un personnage qui a écrasé des millions de personnes comme on écraserait une mouche sur le coin d'une table. Donc, évidemment, tout le monde était terrifié. Les médecins, évidemment, avaient peur qu'on le leur reproche, alors que c'était les meilleurs médecins de l'Union soviétique. Les médecins ont toujours peur. D'autant plus qu'il y avait eu le procès des blouses blanches avant, etc. Enfin, tout ça a été extrêmement... Et que ce genre d'événement met tout le monde dans une espèce d'état où on est hébété et tétanisé. Et les choses se passent un peu en dehors de vous. Donc, en tout cas, c'est très extraordinaire. Je crois que Ray Charles est mort aussi le même jour que le président Reagan, ce qui était évidemment pas très agréable pour Ray Charles, quoique lui s'en fichait, mais enfin pour ceux qui l'aimaient bien. Ou Cocteau, le même jour qu'Edith Piaf. Il y a des choses comme ça, il y a des concomitances navrantes. Mais effectivement, Staline et Prokofiev, comme Prokofiev s'était un peu opposé à Staline, c'est évidemment troublant. Enfin, il a eu cette chance que n'a pas eu Pablo Casals, par exemple, qui avait quitté l'Espagne franquiste, et que je n'y remettrai les pieds que quand le caudillo sera crevé. Et malheureusement, même si Pablo Casals est mort à plus de 90 ans, très âgé, l'autre lui a survécu. Donc.
On parle un petit peu de Schubert quand même. Donc, oui. 42 petits chapitres. Quelle est la manière dont vous avez choisi ces chapitres? C'est des réflexions d'un seul coup? C'est une construction?
C'est un peu venu comme ça. Je m'étais donné à peu près 6 mois pour l'écrire. J'ai fait ça un peu comme pour le dictionnaire amoureux du piano, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout décidé. J'ai des confrères et des collègues qui ont fait très sagement une table des matières avant. Par exemple, Malin Duo pour l'opéra, a regardé bien par ordre alphabétique. Moi, je n'ai pas du tout fait ça. J'attendais d'avoir le matin l'impulsion. Ça paraît un peu étrange, mais moi, j'ai besoin de cette énergie-là. J'ai l'impression que il faut que ça me tombe un peu, il faut que je sois un peu aiguillonné, il faut que l'énergie m'arrive un peu comme ça. Ça a un inconvénient, c'est que au moment de rendre le manuscrit, je me suis rendu compte pour Dictionnaire amoureux que j'avais oublié Franz Liszt. Évidemment, si j'avais fait une table des matières, je l'aurais pas oublié. Donc c'est l'un des derniers articles que j'ai écrit. Mais pour Schubert, c'était pas ça. Je voulais un petit peu à la manière d'une de ses sonates, en toute modestie évidemment, mais que ce soit un peu un cheminement. Il faut que la forme ressemble. Si ça avait été un autre compositeur, je pense que j'aurais pas fait comme ça. Là, comme c'est quand même un maître de la petite forme, même si là, il a montré aussi que là, la grande forme, la grande sonate, la grande symphonie, c'est quelqu'un qui arrive à faire se refléter une cathédrale dans une goutte d'eau. C'est-à-dire que dans un tout petit litre de 3 minutes, on a l'impression que l'histoire du monde, le secret de l'humanité est enfermé là, et toujours avec légèreté, subtilité. Donc je pensais que c'était bien. Et je pensais qu'il fallait que de pouvoir émettre que je puisse mettre des choses de moi-même, c'est-à-dire que je puisse faire entrer la vie dedans. C'est-à-dire que le jour où je voulais parler d'une chose qui est Schubert et Dieu, ou Schubert et les femmes, ou Schubert et le chant, ou Schubert et le temps, je voulais que les gens que je puisse rencontrer, les réflexions que je puisse me faire, le lieu dans lequel je me trouvais, si c'était en Afrique ou à Paris ou à la campagne, puisse influer, que tout ça soit pour eux, en espérant et en priant Dieu mille fois que ce ne soit pas une chose trop ridicule. Mais en tout cas, à un moment donné, j'étais comme ça à la tangente, j'ai failli tout mettre au feu, tout balancer en me disant bah, enfin, on va me prendre soit pour un sombre crétin, soit pour un fou furieux. Et en fait, en travaillant, je pense que ça va. Enfin, je pense que c'est pas ridicule, quoi. Voilà, c'est ce qui fait que je peux me présenter devant vous sans rougir.
Schubert a beaucoup écrit pour la voix. Il a fait des centaines, voire des milliers de lieder. Que penser de ces opéras ? Moi, c'est une question qui me préoccupe régulièrement parce que un musicien d'un tel génie qui a écrit, je sais pas combien, 5 ou 6 opéras, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les présenter, à ce qu'ils aient du succès, à ce que...
Cher Thierry Fauquet, je me pose la même question que vous. Je ne comprends pas non plus. Je pense que ce sont des... Parce que si on prend des choses du bel canto de Bellini ou de Donizetti, les histoires ne sont pas tellement... Si on prend l'histoire de la somnambule,
oui.
C'est pas non plus...
Un génie.
Voilà. Le livret, c'est pas... Bon. Et je ne comprends pas pourquoi... Alors, évidemment, Schubert n'est pas Mozart. Il n'a pas son génie dramatique. Il n'a pas...
Mais il a le génie dramatique dans chaque lied.
C'est ça. Comme Vivaldi avait le sens du théâtre dans ses concertos et beaucoup moins dans ses opéras. Comme si l'opéra était une forme assez curieuse qui demandait des spécialistes. J'entends spécialiste, alors mettons Mozart à part, Verdi, Wagner semblent être les puisqu'ils n'ont fait pratiquement que ça.
Oui.
Alors après, les autres, comme Schubert et Beethoven, c'était une obsession pour eux. Quand on relit les carnets de conversation de Beethoven, quand on relit quand on s'immerge un petit peu dans cette époque-là, ou quand on lit la correspondance de Mozart aussi, l'opéra c'était une obsession, mais c'était comme le cinéma aujourd'hui, quoi. C'était l'œuvre
clé.
Oui, clé. Et ça prenait beaucoup de temps, et c'était beaucoup de déceptions et beaucoup de temps perdu. Et Beethoven n'a pu en faire qu'un. Il avait d'autres projets, dont un Faust, hein, qu'il n'a jamais pu faire. Et puis on ne peut pas dire que Fidelio soit son plus grand chef-d'œuvre, à lui non plus. Donc je pense que, effectivement, ça demande. Et alors, une symphonie peut être reprise plus tard, mais comme le cinéma aujourd'hui, je trouve l'opéra à cette époque-là, parce qu'il y a des opéras qui ont eu un grand succès et qui ont disparu aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est plus périssable. Enfin, rares sont les œuvres qui arrivent à résister. Rares sont les œuvres dont on peut dire qu'elles ont rencontré un public à leur époque et qui restent encore aujourd'hui. Il y a eu quand même énormément d'œuvres qui ont été balayées par
le besoin de nouveauté. Parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait sans arrêt un besoin de nouveauté. Mais il y a des œuvres qui ont été effectivement oubliées pendant de nombreuses années qu'on retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt.
Oui, oui. Mais c'est un intérêt... c'est un intérêt. Si c'est bien... Ça demande tellement de choses. Il faut que ce soit bien chanté. Il faut que ce soit bien monté. L'opéra, c'est une forme quand même très complexe. Il faut qu'il y ait un miracle. À chaque fois, c'est pas à vous, Thierry Fouquet, que je vais apprendre ça. C'est, vous êtes un faiseur de miracles chaque jour. Et le jour où vous n'en faites pas...
c'est dur.
Et on vous le reproche. Et on vous reproche de gaspiller l'argent du contribuable. Et...
Bien, merci beaucoup, Olivier, de ce bon moment.